Radio de la Paix.
Reportage. Jean-Mylène Biti.
Recourir aux médicaments pour se soigner sans consulter au préalable un professionnel de la santé est une pratique courante chez beaucoup de personnes à Daokro. Quels sont les facteurs favorisant l'automédication dans la capitale de la région de l'Ifou, située au centre-est de la Côte d'Ivoire? Comment remédier à cette situation qui pourrait constituer une véritable question de santé publique, selon des experts? De plus amples détails dans ce grand reportage. Je suis François Kra. Bonjour. À Daokro, il est inutile de faire un sondage pour s'en rendre compte de l'ampleur que prend l'automédication au regard du constat sur le terrain, selon Dr Kofi Jean-Claude, directeur régional de la santé de l'Ifou.
Il n'y a pas d'études au niveau de la région de l'Ifou sur l'automédication, mais c'est en général par rapport aux pratiques. L'automédication, comme vous entendez, c'est quelqu'un lui-même ne connaissant pas les indications des médicaments et il prend. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu un professionnel de la santé et il prend des médicaments parce qu'il a vu telle personne prendre, donc lui aussi il prend.
Bon nombre de gens la pratiquent pour diverses raisons.
Moi, c'est M. Bonzo Modeste, vice-président des jeunes du quartier de 120. Des fois, tu es malade, tu vas à l'hôpital. Le médecin te prend et dit, bon, tu as quoi? Tu expliques. Et puis, à ta grande surprise, tu t'en une ordonnance. Sans toutefois te dire ce que tu as. Bon, par exemple, monsieur, vous avez telle maladie. Pour cela, on va vous prescrire tel médicament. Vous allez partir payer. Vous avez l'impression que le monsieur te regarde et puis t'étend et te dit, bon, va payer quelque chose. Et c'est la même chose que les gens qui vendent des médicaments par terre font. Tu arrives, tu regardes, tu as mal à la tête, ça te fait comment? Ça fait tant, ok, faut payer tant. Bon, si c'est à l'hôpital, on peut rien me dire par rapport à mon mal. Et que médicaments par terre aussi, c'est le même comportement. Donc, je comprends que ici, je peux venir. Plus, et ils sont plus accessibles. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Mon oreille s'enflait. J'avais très mal. Et puis, je suis allé à la pharmacie. J'ai acheté un médicament qui coûtait 5 000 et quelques. J'ai commencé à faire le traitement. 2 jours, 3 jours, mon oreille me faisait encore plus mal. Et c'est encore plus enflé qu'auparavant. Je repars à la pharmacie. Je vois le docteur. C'est une dame. Il dit, mais voilà ce que l'effet que le médicament a sur moi. Elle appelle. Derrière, elle dit, on a quand même apporté un autre médicament. Apportez-lui. Il dit, non, madame. C'est pas parce que j'ai l'argent pour m'acheter des médicaments. Mais je vous dis, vous m'avez prescrit quelque chose qui ne va pas avec moi. Vous me dites pourquoi ça fait ça. Et puis en même temps, si je dois prendre autre, je dois... Mais vous dites rien, vous demandez qu'on m'envoie d'autres médicaments. Elle s'énerve maintenant, commence à bavarder. Mais je n'ai plus calculé, j'ai claqué la porte de la pharmacie, je suis sorti. Et je suis allé prendre un médicament par terre. Quand je suis arrivé, la dame m'a demandé, j'ai pris. Et puis ça m'a soigné. Bon, vous voulez que demain, je qualifie ça comment?
Blé Lorraine. Parce que quand on va à l'accueil, même n'est pas chaleureux. Et puis, on met du temps. Parce que les femmes qui sont enceintes, qui vont en consultation, la plupart sont obligées de se réveiller peut-être à 3 heures du matin, aller faire le rang pour finir peut-être à 16 heures sans même payer les médicaments. Vraiment, c'est gênant. Des fois, c'est énervant pour dire des patients, mais vraiment, c'est un peu abusé. Et puis, les sages-femmes aussi, vraiment, on a l'impression qu'il y a une négligence à ce niveau-là. Parce qu'il y a des préférés, il y a vraiment... Des tolérances à plusieurs niveaux. Donc, celles qui ne sont pas allées loin à l'école, celles qui n'ont pas de mari, qui sont bien placées, vraiment, c'est difficile. Elles préfèrent rester au village, même à la maison, aller sur le marché, payer des médicaments 200, 300.
Moi, c'est Gabi Moustapha. Concernant l'hôpital, c'est dû à l'accueil. Chez moi, l'accueil n'est pas trop ça. Parce que nous sommes des malades et on l'accueille violemment. Parce que moi aussi, j'ai été victime là plusieurs fois. J'avais fait un accident et le monsieur ne s'est pas occupé de moi.
La pauvreté dans plusieurs ménages serait également l'une des raisons de la vie de Touré Bayougo.
Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à se nourrir et ça, c'est une réalité. Quand tu vois que je dois aller à l'hôpital, il faut payer en plus de tout ce qui serait comme difficulté pour avoir accès au médecin, mais il faut payer des tickets de caisse. À côté de cela, il y a des pathologies qui n'ont pas nécessairement besoin de faire des examens. Mais à la limite, c'est comme si les gens, ils créaient forcément un business, un deal. Il faut forcément faire tel examen, de sorte à se renflouer les caisses. Donc, il y a ce fait-là.
Pour Koménan Joseph, président d'une association agricole du département de Daokro, dénommée Fier Difoué, il ne faut pas perdre de vue l'éloignement des structures de santé, des populations rurales et la mévente des produits agricoles.
Aujourd'hui, là où nous sommes, là, que ce soit l'EVA, que ce soit le cacao, que ce soit la narcade, rien ne s'achète. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la narcade, tout le monde est déçu du prix. Alors, pour quelqu'un qui doit venir à l'hôpital ici et dépenser 10 000 francs. Il lui faut, pour atteindre 10 000, il lui faut vendre au moins, je ne sais pas, plus de 20 kilos, 30 kilos dans Narcade. Là, il ne va pas venir ici. Mais toutefois que quelqu'un, par exemple, est dans un campement tel que je vois, Dibi-Kwayo-Kuru, Daoukuru, c'est 35 kilomètres. Mais aucun personnel de santé ne va dans ce campement-là. Or, le maraca ou bien le jeune, il a son petit produit, d'accord, lui, il va là-bas. Donc, ça va être difficile aux gens de leur dire de ne pas se soigner à bas de ces produits.
Pour combler ce manque, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre la couverture maladie universelle, SEMU, un système national obligatoire de couverture du risque maladie dont l'objectif est d'assurer l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire. L'assuré dont la contribution exigée est de 1 000 francs CFA par mois, les parents devront payer cette somme pour tout enfant âgé de plus de 5 ans. Bonne initiative cette, mais les cotisations mensuelles demeurent encore un souci pour les ménages à faible revenu, selon Alou Kwame Alphonse, relais communautaire.
Tu sais qu'il y a des réalités sur le terrain. Moi, j'ai peut-être 8 enfants. Par mois, il me faut payer 8 000 francs. Et pourtant, peut-être que ce que je gagne même là, 8 000 francs là, par mois, là, hein, au bout d'un an, ça fait combien? Bon, si je n'ai pas pu avoir les 8 000 francs pour payer, pour pouvoir couvrir, les enfants vont rester. Voici aussi une des réalités qui est là. Parce que cette pratique-là, ça réussit beaucoup plus chez les fonctionnaires. Et puis peut-être quelques commerçants qui arrivent quand même à faire certaines recettes. Sinon, on ne sait pas avec tout le monde.
Mais Iriebi Ojan, agent de l'État à la retraite, note un dysfonctionnement au niveau de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État, MUGEFSI.
Moi, personnellement, je dois être soigné gratuitement. Puisque j'ai la carte de Mutuelle des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous allez là-bas, non seulement c'est difficile pour que vous puissiez avoir les médicaments, mais le parcours même est difficile. Quand on parle d'un malade, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester debout pendant longtemps. Mais comment il va faire toutes ces courses-là? Quand vous arrivez, il faut aller d'abord prendre le ticket, il faut venir faire le rang. Souvent même, les gens vont vous prescrire des médicaments. Quand vous arrivez à la pharmacie, on dit que les médicaments ne passent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner encore à l'hôpital. Mais je crois qu'il y a tout un système qu'il faut mettre en place pour aider les malades à se soigner. Il faut qu'on mette les médicaments qui ne passent que sur la carte. Mais pourquoi on nous met des médicaments qui ne passent pas? Et c'est à la pharmacie, on vient nous dire que ces médicaments ne passent pas. Vous êtes obligé de retourner, mais qu'est-ce qu'on fait? En attendant, vous êtes en train de mourir.
Ce phénomène d'automédication est aussi favorisé par l'accès facile à l'information via les médias, Internet et la publicité au dire de Bédier Lazare.
Mon humble avis, hein, je pense que c'est une question de réseaux sociaux et puis d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de produits, je ne peux pas dire pharmaceutiques, mais les produits de santé qui sont beaucoup versés sur l'Internet, en ligne. Alors, tous ceux qui prennent leur appareil, leur portable, quand ils ont une vidéo, ils essaient de voir. Et puis les médicaments qu'on vend en ligne sont quand même moins chers. Tu es tenté quand même d'essayer. Et souvent, ça prend.
Une situation que déplore Kwasi Serge-Gislain, pharmacien.
Dans certains pays, même si on vous donne... On vous donne l'autorisation de vendre des médicaments au bord de la route. Personne ne viendra acheter ces médicaments-là. Parce que dans la culture, on va pas payer les médicaments au bord de la route. Certaines personnes vont se cacher derrière des problèmes financiers. D'autres vont se cacher derrière le fait que bon, c'est trop compliqué pour voir un médecin, que c'est trop compliqué à l'hôpital. Plusieurs raisons, mais je pense qu'il y a aussi un problème culturel. Vous savez, moi, je suis à la pharmacie. Il y a des médicaments, même, je ne touche pas. Tellement que c'est des produits dangereux, je ne touche même pas à ces médicaments-là. Et parfois, je reçois des personnes qui viennent demander ce médicament-là. Le médicament que moi-même, j'ai peur de toucher. Je vois des gens qui viennent comme ça et ils demandent ce médicament-là. Peut-être qu'il faudra faire une étude sociologique. Hein. Pourquoi est-ce que les gens se tournent vers les médicaments de la rue? Mais je pense qu'il y a un problème culturel.
Le trafic des faux médicaments est donc en augmentation à Daoukro, car il est des plus lucratifs. Des ONG en subissent malheureusement.
Moi, c'est Yao Serge de l'ONG CEPET. On s'occupe beaucoup plus des malades. PVVIA, c'est ceux qui sont victimes de la maladie, la VIH-Sida. La conséquence, nous avons, n'est-ce pas, des perdus de vue. Vous savez, c'est des gens qui sont déjà en traitement avec nous. Nous les mettons sous des ARV. C'est les antirétroviraux destinés aux malades du VIH-Sida. Nous les traitons normalement, mais arrivé à un moment donné, on ne les revoit plus. On les retrouve dans les camps de prière, parce que là-bas, on nous fait savoir que la prière sauve, mais la prière n'a jamais guéri. Il y a même le côté hygiénique qui rentre en jeu. Ils sortent là-bas avec d'autres maladies en plus de la maladie à cause de laquelle ils sont rentrés dans ces camps. C'est des charlatans un peu partout dans la ville, mais parfois même avec des vendeurs ambulants de médicaments à qui ils s'abonnent pour penser pouvoir se soigner là-bas et finalement ils n'arrivent pas à le faire. C'est ce qui nous fatigue.
D'autres personnes ont de leur côté opté pour la médecine traditionnelle comme alternative. Yaou Hélène est une actrice du domaine.
Quand je dors, les genoux me montrent les fesses. Il faut prendre ça là pour faire ça là. Les femmes enceintes, je les traite. Elles viennent beaucoup parce que c'est le même médicament traditionnel là. Les blancs fabriquent, ils mettent les produits, ils prennent pour faire les choses. Je mets canari. Si c'est pour boire, je te donne, je fais les kaolins. Il y a des femmes qui voient chien mort. Si ton bobo douma là est petit, je donne le médicament, ça ouf. Et puis tu accouches facilement à l'hôpital. Si je dirais ici que je vais quitter, les gens disent qu'il ne faut pas, je vais quitter. Moi aussi, je ne prends pas beaucoup d'argent. L'argent là, c'est bon, mais c'est l'homme qui est important. Il y a des enfants, on dit que ce n'est pas arrivé prématuré, je fais.
Kwaku Aminan Eliane est l'une de ses clientes.
Quand je prends grossesse, elle me suit jusqu'à mon accouchement, sans problème. Elle me donne mes traitements traditionnels, pour aussi me purger. Elle me donne aussi, je bois, je me porte très bien. En tout cas, son médicament est très bon.
Ouattara Madoussou est vendeuse de médicaments traditionnels.
Ma mère et moi, nous vendons les plantes médicinales. Ce sont les tradis praticiens qui vont les chercher en bourse. C'est de cette activité que nous vivons. Les tradis praticiens nous livrent la posologie, c'est-à-dire comment utiliser les plantes et les maladies que ces plantes traitent. À force de faire cette activité, nous savons tout de ces plantes.
Docteur Nobu Jean-Marc, directeur départemental de la santé de Daokro, réagit.
Il ne faut pas faire de confusion. Aujourd'hui, dans l'itinéraire thérapeutique de nos malades, le malade, il peut aller à l'hôpital pour recourir à la santé moderne. Il peut recourir aux médecines alternatives, dont la médecine traditionnelle. Vous savez que depuis 1994, les premiers décrets ont été pris qui reconnaissent les cabinets de médecine traditionnelle. C'est en 1994 qu'on reconnaît l'existence de l'herboristerie. Les herboristes sont ceux-là même qui vendent les médicaments pour la médecine traditionnelle, quelle que soit la forme. Ça peut être sous forme de poudre, sous forme de plantes, sous forme de racines, sous forme de feuilles, sous forme d'écorce. Ça, ce sont les herboristeries. Il y a également les établissements d'acupuncture qui sont reconnus dans le décret de 1994. Il y a également les professionnels de la médecine traditionnelle, tels que les phytothérapeutes, qui sont reconnus dans le décret de 1994. Donc aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, il y a une loi, il y a des documents, des cadres réglementaires qui existent, qui reconnaissent la médecine traditionnelle comme faisant partie intégrante de l'offre de soins. Et on a la loi sur la médecine traditionnelle qui est sortie, qui a été signée par le président de la République, le président Alassane Ouattara. Il y a également un code de pratiques et d'éthique de la médecine traditionnelle pour dire qu'il y a certaines plantes qu'il ne faut pas donner à la femme enceinte parce qu'il y a des plantes qui renforcent les contractions utérines. Une fois que vous renforcez les contractions utérines d'une femme enceinte, si elle n'est pas dans un milieu où il y a un bloc, si elle ne peut pas accoucher, il faut aller l'opérer rapidement. Mais si vous êtes en brousse, vous donnez des médicaments qui renforcent les contractions utérines. Si l'enfant ne sort pas, mais c'est un enfant qui va souffrir dans l'utérus de sa maman. Parce que les contractions utérines, imaginez-vous, on vous met un ballon sur la tête, on attache le ballon, et puis on prend un bâton, on tape sur le ballon. Et vous savez que le fond utérin, des fois la tête de l'enfant se retrouve là-bas. Normalement, la présentation céphalique, la tête de l'enfant doit être en bas, pas dans le fond utérin. Ce sont les pieds qui sont là-bas, et quand l'enfant sort, c'est la tête qui sort d'abord. Mais il y a certaines présentations où c'est les pieds, les présentations des sièges, et la tête de l'enfant est dans le fond utérin. Si vous donnez des médicaments qui renforcent les contractions utérines, pendant toute la grossesse, l'enfant va recevoir des coups sur la tête. Imaginez un enfant qui reçoit, mais il va sortir zinzin, comme on le dit.
Quels sont les risques qu'on court en prenant des médicaments qui ne sont pas recommandés par un médecin? Docteur Nobu Jean-Marc explique.
Oui, il y a plusieurs dangers. D'abord, vous savez, avant de prescrire un médicament, il faut d'abord poser un diagnostic. C'est lorsque le diagnostic est posé qu'on prescrit le traitement qui est en rapport avec le diagnostic. La personne qui prescrit le médicament, est-ce que la personne a fait un bon diagnostic? Je vous donne un exemple. Si moi j'ai le paludisme, que vous me donnez des médicaments de fièvre typhoïde, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me donner des antibiotiques de la fièvre typhoïde, le paludisme qui me frappe va continuer à évoluer et on va avoir des complications qui sont liées à la maladie. Parce que le médicament que vous me donnez ne correspond pas à la maladie que j'ai. Ça, c'est le plan connaissance de la maladie. Maintenant, il y a le plan aussi connaissance du médicament. Parce que le médicament, c'est un produit qui doit être donné selon une posologie. Il y a le dosage de la molécule, il y a la forme de la molécule. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui vomit, si vous lui donnez un traitement par voie orale, vous voyez que ce médicament ne va pas agir. Il y a aussi la durée du traitement. Dans le cas du paludisme, par exemple, on va vous dire, prenez tel médicament, soit une fois par jour, soit deux fois par jour, pendant 3 jours. Si vous ne respectez pas la durée du traitement, ça aussi, il y a des problèmes. En plus, il y a la quantité de médicaments à donner. Il y a des médicaments qu'on donne une fois par jour. Et il y a des médicaments qu'on donne en 2 fois ou en 3 fois. Si vous ne respectez pas cette répartition, comme on dit, circadienne, c'est-à-dire dans la journée, vous aussi vous exposez le malade à des complications. Et ensuite, une molécule qu'on donne, ça dépend de la personne qui est en face de vous. Il y a des posologies qui sont adaptées pour les enfants. Il y a des posologies qui sont adaptées pour les femmes enceintes. Il y a des posologies qui sont adaptées pour les personnes âgées. Il y a des posologies qui sont adaptées à des personnes qui présentent soit des tares. Vous comprenez que une molécule qu'on donne à une personne pour traiter son paludisme, si la personne n'a pas une insuffisance rénale, c'est pas la même posologie qu'on va donner pour une personne qui a par exemple une insuffisance rénale. Donc c'est le professionnel de la santé qui peut adapter la posologie en fonction de l'état de la personne qui se trouve devant lui. D'abord, vous savez que dans la rue, les médicaments obéissent à des règles. Il y a des conditions de température auxquelles il faut conserver les médicaments. Dans la rue, les médicaments ne sont pas à l'abri de la poussière, de la chaleur, de toutes sortes d'intempéries. Et ça encore, quand le médicament est mal conditionné, quand le médicament est mal stocké, quand le médicament est mal géré, ça peut conduire à des drames.
Mais comment lutter contre cette situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé des populations? Rabelais Kouakou donne son avis.
Daoukro est loin du port d'Abidjan. Les médicaments ont envahi Daoukro. Ça quitte où pour venir? C'est ça. L'État prend des mesures, mais je pense que ces mesures ne sont pas prises jusqu'au bout. Voilà, il faut que l'État lui-même ouvre les yeux pour empêcher même l'entrée de ces médicaments sur le territoire ivoirien. Tant que les médicaments seront là, alors ils ont cassé des coins au niveau d'Adjamé pour ça. On sait que c'est l'usine, mais malheureusement, ces médicaments continuent de venir.
Tiapo Hervé, président du Conseil national des jeunes de l'IFU, propose le renforcement de la sensibilisation.
Il faut multiplier les sensibilisations. Et qu'à travers les radios de proximité, il faut former les leaders communautaires pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent sensibiliser dans leur communauté. Quand on parle de l'automédication, la plupart, c'est l'ignorance qui nous amène à faire cela.
Tanon Serge, enseignant, met l'accent sur la vulgarisation de la CMU.
D'abord, l'État a pris une initiative qui est noble, la CMU. Qu'est-ce que la CMU implique ? Puisque la population, les fonctionnaires aujourd'hui n'ont pas de problème, puisqu'il y a un arrimage CMU Mujepsi, ils n'ont pas de problème. Mais le villageois à qui on va enrôler CMU, est-ce qu'on lui a expliqué réellement qu'est-ce qui doit se passer au niveau de la CMU? Est-ce qu'on lui a dit que chaque mois il doit enlever 1000 francs pour payer pour faire ceci, cela? Et s'il n'a pas payé, est-ce que sa carte est bloquée? Il ne sait pas. Il est assis dans son campement, il est assis dans son village, il se lève, il a sa carte CMU, il va à la pharmacie de l'hôpital, il va à l'hôpital, on lui dit que ta carte ne marche pas. Le monsieur est désemparé, il est déçu, mais quand il retourne, il ne revient plus. Donc il faut une meilleure vulgarisation de la sensibilité de la CMU à la population, surtout à la population rurale.
Yao Konan Frédéric plaide pour le rapprochement des structures sanitaires des populations.
En construisant des centres de santé dans ces endroits les plus très reculés, les routes sont impraticables.
La dernière intervention revient à Dr Nobu Jean-Marc, directeur départemental de la santé de Daoukro, qui a été très actif dans ce magazine.
Ce qui s'adonne à l'exercice illicite de la médecine ou de la pharmacie, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des saisies, il y a des emprisonnements. Ça, vraiment, il y a un code qui est établi. Vous savez que même l'exercice de la médecine foraine est interdite. Parce que la médecine foraine, aujourd'hui, un professionnel de santé qui s'installe quelque part, il doit pouvoir avoir un agrément, il doit pouvoir avoir des informations qu'il donne aux patients. Ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui qui est au carrefour de 3 pneus, demain se retrouve au carrefour 6 pneus. Non, il n'a pas de géolocalisation et ça c'est de la médecine foraine. Déjà ça, mais c'est interdit. Et en plus, aujourd'hui la loi ne nous permet pas de faire la publicité en matière de médicaments. Vous voyez les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont dans les cars, ceux qui abordent les patients, j'ai tel médicament pour telle maladie, tout ça. C'est de la publicité mensongère ou pas, mais la publicité en matière de santé, en matière de médicaments, tout ça c'est interdit.
C'est la fin de ce grand reportage relatif à l'automédication qui est en vogue à Daoukro, une pratique qui n'est pas sans risque, déconseillée par les experts de la santé, même si certaines personnes avancent le manque de moyens pour payer une consultation médicale et des examens médicaux. Reportage réalisé et présenté par François Kra. Merci de nous avoir suivis et restez sur la fréquence de la paix.
C'était Reportage
Radio de la paix.